la musique.
Caravanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour d'un
vive mon grand gaillon, vive le soleil. Vive
les oreilles.
Vive.
Je sais, oui, ça ne fait rien, soit ignoré. Va donc laisser la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais bien qu'on dit d'eux qu'ils sont les grands artistes. Tant pis, ne sois pas honoré. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Son ennui. Et s'il te méprise et t'oublie sitôt qu'il a passé la porte, va, laisse-le, ça ne fait rien. Va, laisse-le.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Rive, voilà, qui va nous faire partager une programmation musicale et à travers cette programmation nous faire le cadeau de découvrir un peu aussi sa sensibilité, ses intérêts, son travail, son univers. Voilà, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Peut-être qu'on peut commencer par présenter ce qu'on vient d'entendre.
Ouais, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle The Incompetent, basé à Beyrouth, dans lequel je joue.
D'accord, donc présentons aussi Stéphane comme pratiquant le saxophone.
C'est, ouais, entre autres.
Entre autres, voilà, on aura l'occasion de découvrir tes multiples talents. En tout cas, dans ce groupe-là, c'est
là, je suis au saxophone. Ouais.
Voilà, c'est un quintet donc, avec des musiciens de Beyrouth. Ou...
Ouais, c'est un groupe de pop-rock, en fait.
De pop-rock,
libanais.
Voilà. Libanais, ouais.
On va dire plutôt rock alternatif, pop progressif, quoi.
Ok.
Et là, c'est un morceau un peu plus libre, quoi. Bon, en général, c'est des chansons, des formes assez structurées.
Ouais. En tout cas, il y a des
ouvertes, enfin, en tout cas, qui laissent un champ assez libre.
Alors, le chant avec un T ou avec un P?
Un P.
Parce qu'il y a du chant aussi dans ce qu'on vient d'entendre.
C'est, ouais, c'est free, plutôt c'est open. C'est un texte de Guitry, je crois, sur le l'acteur. Et donc en général, c'est donc des compositions originales.
Ok. Alors
je peux dire d'ailleurs, le groupe est composé de plusieurs musiciens locaux. Uh-huh. Il y a Fadi Tabal qui est à la guitare, à la composition. En fait, le groupe a été créé par Fadi Tabal et Serge Yaled. Uh-huh. Serge Yaled, c'est le chanteur. Il écrit les textes. Fadi travaille les compositions, les musiques avec Serge. Et puis ensuite, il y a...
Et Fadi Tabal, guitariste, c'est ça?
Il est guitariste. Ouais. Il travaille sur la scène libanaise. Il est assez connu. C'est aussi un ingénieur du son. Il enregistre toute la scène underground. Enfin, les groupes assez connus au Liban. Comme Soapkills, ça a été un groupe, par exemple, assez connu. Aujourd'hui, il y a Yasmin Hamdam qui fait une carrière plus internationale.
D'accord.
Mais bref, c'est tout ce petit groupe qui existe au Liban qui sont impliqués dans la scène expérimentale qui est dirigée par... Les musiciens libanais qu'on connaît aussi ici en France, comme Sharif, Sernaoui ou Mazen Kalbech, qui ont le festival Irtijal. Et puis il y a toutes les scènes underground pop, post-punk, électro qui gravitent. Et puis tout ça se mélange, ce qui fait que je me suis impliqué dans d'autres formes de projets, comme le pop-rock.
Donc on comprend évidemment que tu passes aussi pas mal de temps.
Oui, de moins en moins, mais en tout cas, ce groupe-là fait partie de choses que j'ai fait au Liban auxquelles je tiens et qui j'espère va durer. Donc il y a aussi une jeune batteuse, enfin c'est un groupe assez improbable parce qu'en fait le bassiste c'est un musicien suisse, Paet Konka, qui vient de Berne mais qui est basé à Beyrouth maintenant, donc il est aussi pas mal impliqué dans les scènes de musique improvisée expérimentale.
D'accord.
Et puis il y a une jeune batteuse qui s'appelle Maya, qui a 20 ans, donc c'est... et puis moi au sax, et on fait une musique un peu bizarre pour les Libanais.
En soi, peut-être, un peu aussi.
Ouais, mais enfin, non, en Europe, non, on est un peu plus habitués en Europe à cette forme de...
Bah, en tout cas, on a des
rock,
références.
Finalement, oui, Captain Beefheart, enfin, on a des références, voilà. Ouais. Et voilà, mais donc c'est un groupe, en fait, qui prend de plus en plus d'importance sur la scène libanaise, parce qu'il ouvre effectivement d'autres territoires, quoi, dans le pop-rock. Donc c'est vraiment un groupe auquel je tiens.
Et il tourne aussi en dehors du Liban ou...
Bah, on a joué, en fait, une fois en décembre, on a joué à la Boule Noire à Paris.
Ah ouais, ok.
Et c'est le seul concert qu'on a réussi à faire en dehors du Liban, parce que bon, c'est difficile à déplacer.
Ouais, bien sûr.
Une production, etc. Ouais. Et ça s'est super bien passé. Mais en général, on a surtout joué au Liban.
Et les textes, là, on vient d'entendre un texte en français, donc...
Les textes sont plutôt en anglais.
Plutôt en anglais,
ouais,
en fait.
Ouais. Non, c'est pas un groupe qui a une volonté de se situer dans une forme d'arabité. C'est vraiment des gens qui ont des influences internationales et qui sont plus intéressés par une forme d'écriture, un rapport au son. C'est ce qui m'a intéressé aussi, ça, en fait. C'est qu'il y avait... Il y avait dans ce groupe, dès l'origine, quand je les ai entendus, une certaine affinité avec une recherche de sonorité qu'on trouve dans certains groupes de rock, même très anciens, enfin, dans l'histoire du rock, quoi, mais qui au Liban n'est pas si courant.
Eux, ils avaient ce désir justement de, d'un ailleurs un peu.
Ouais. C'est des gens aussi qui sont impliqués dans les scènes expérimentales. Donc voilà, ils peuvent réfléchir à une dans une forme assez idiomatique finalement à intégrer quelques surprises quoi. Donc ça, c'était intéressant.
C'était
amusant. Moi, c'est amusant, c'est un challenge parce que ça m'oblige aussi à me cadrer, et oui, à respecter la forme. En
voilà,
fait. Parce
qu'on
est quand même dans une forme de pop rock et il faut respecter une certaine ligne tout en y incorporant quelque chose d'un peu plus créatif.
Ouais, donc la tension qu'il peut y avoir entre, entre les deux, entre les contraintes.
Vu que c'est pas mon, c'est pas là d'où je viens.
Sans doute qu'on pourra découvrir effectivement des choses un petit peu plus différentes, on va dire, peu différentes dans la suite.
Donc voilà, j'aime bien. Enfin, ça, c'est un. c'est vraiment un morceau assez, assez free, quoi.
Ok.
Qui flirte un peu avec le free jazz, post-rock. Donc c'est assez sympa.
Parce que c'est aussi des musiques, peut-être on peut en profiter pour. Évoquer quelques éléments de ton parcours aussi. Est-ce que c'est des musiques qui ont pu te nourrir aussi
bien
dans
sûr.
Ton parcours
Pas au début, mais de plus en plus. Disons, sur ces 10-15 dernières années, ça m'a beaucoup plus intéressé de revenir à certaines sources que de m'intéresser obligatoirement à ce qui se passait aujourd'hui, quoi.
Et au début, alors, c'était plus quelle influence ou quelle
Moi, dans mon parcours, c'était plutôt... je viens du classique, après... en fait, c'était plutôt le live, en fait, quand j'ai découvert Les Instants, il y a une vingtaine d'années, etc., donc, qui m'ont amené vers ce travail. C'était pas vraiment par le disque, etc., parce que je venais des conservatoires et tout, donc c'est une histoire un peu figée pour moi, la musique... l'apprentissage, quoi. Donc en arrivant sur en découvrant en fait les scènes live, ça m'a vraiment poussé à m'intéresser plus à d'autres choses.
Donc bon, c'est pas non enfin,
le... donc il y avait le il y avait le jazz, il y avait la musique électroacoustique, mais il y avait pas encore beaucoup à cette époque-là. Je m'étais pas très tourné vers le rock.
D'accord.
Donc c'est plutôt toutes ces dernières années que je suis revenu à ça.
D'accord.
Et aussi parce que finalement, j'ai fini par le jouer. Enfin, je sais pas, il y a une énergie, en fait, dans cette musique qui m'a intéressé et qui résonne dans d'autres formes de pratiques, je trouve. On n'est pas très loin, finalement.
Très bien. Bah alors, peut-être on peut écouter justement une autre forme.
Ah oui, du coup The Flaming Lips.
The
Flaming Lips.
Flaming Lips.
Ouais, je propose qu'on écoute ça.
Donc, écoutons The Flaming Lips. It's trying again. Les oreilles libres, Stéphane Reeves, notre invité aujourd'hui, nous proposait d'entendre d'abord The Flaming Lips, See the Leaves, et puis on a enchaîné ensuite avec un morceau de Joe Coley, January Broken Stasis. Peut-être quelques mots là sur ce qu'on vient de.
Oui, c'est un peu un grand écart. Hein.
Alors, on dira qu'esthétiquement, effectivement, c'est pas des univers forcément proches, mais.
Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes démarches, évidemment.
C'est sûr.
Mais voilà, je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, tous ces univers-là, ils m'intéressent.
Ouais.
Flaming Lips, c'est peut-être un peu plus anecdotique, mais moi, ce qui me plaît dans certains groupes de rock actuellement, c'est le rapport qu'ils peuvent avoir avec le son, la couleur, la production, la réalisation.
C'est hyper produit, effectivement.
Ou même la manière, enfin, il y a une certaine inventivité dans les formes. Ça reste quand même des groupes un peu alternatifs, hein, c'est pas non plus. mais à la limite, ouais. Bon, on s'en fout, on avait dans. Enfin, c'est pas la question d'ailleurs, parce que.
Bah, la question, c'est un peu quand même, qu'est-ce qu'il est.
Les Beatles avaient aussi, en certains morceaux, extrêmement.
Absolument, mais du coup, ils avaient quelque chose, voilà, de, non seulement d'avant-gardiste, mais de singulier, qui n'appartient qu'à eux, même si ça a pu être copié largement aussi.
Oui, on sent plein d'influence dans ce type de groupe, mais ça reste encore pour moi des groupes intéressants parce qu'il y a un rapport à l'histoire, il y a une certaine histoire de l'enregistrement, de la couleur, une certaine esthétique dans laquelle, finalement, je trouve qu'on. On continue d'être influencé, y compris dans les scènes underground, quoi, finalement, expérimentales.
Tout à fait. Mais alors avec Joe Collet, on bascule dans autre chose.
Oui. Alors là, c'est
très différent. C'est plus la même temporalité. C'est vraiment.
Là, c'est beaucoup plus proche de moi, en fait, quand je travaille vraiment sur mon instrument, le soprano. Je suis plus proche de cette démarche électroacoustique ou micro sonore, on va dire, c'est-à-dire de rentrer dans le détail des choses, de travailler sur l'invisible ou l'inouï.
Quelque chose qui
va puiser finalement à l'intérieur. Du corps de l'instrument, mais aussi du corps du musicien. Où là, par exemple, dans le cas de Joe Collet, bon, c'est typiquement le travail des preneurs de son, enfin, qui travaillent sur les capteurs, sur les systèmes de prise de son aquatique, etc. C'est-à-dire des gens qui vont chercher à l'intérieur de la matière ce qui est inaudible, en fait. Et on se rend compte, en fait, de la très grande proximité qu'il peut y avoir entre les démarches des musiciens aujourd'hui qui travaillent sur le rapport électroacoustique avec des instruments traditionnels, quoi, ou les musiciens d'électronique, ou finalement les sons naturels. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il n'y a pas tellement de frontières entre une démarche qui pourrait être considérée très intellectuelle pour certaines personnes ou.
Alors laquelle faut que tu nous dises, parce que quelle démarche
quand on travaille comme ça sur une forme de radicalisme du son, finalement.
D'accord, ouais.
C'est-à-dire qu'on propose des sonorités qui ne sont pas habituelles, des formes qui sont déstabilisantes. Enfin, y a toujours quelque chose de très troublant dans ce qu'on propose comme travail. Ouais. Les gens ne sont pas forcément familiers. Ça met en jeu des rapports d'écoute ou des rapports même... Donc sensibles, mais aussi corporels, qui sont différents, des affects qui sont complètement différents. Ouais. Et on se rend compte, donc, dans tous les gens qui travaillent sur ces prises de son naturelles, que ce soit le field recording ou ce type de travail de micro-captation, quoi, comme Marc Behrens ou Jeff... comment il s'appelle, German, ou Joe Collet, des gens comme ça, ou d'autres types de personnes qui travaillent sur le field recording, que finalement, il y a quelque chose de très organique qui existe, qui est là autour de nous, qui existe, qui est perceptible ou imperceptible et que on peut dégager dans certaines préoccupations de musiciens actuels qu'on considère comme finalement très cérébraux, très conceptuels, alors que il y a probablement des décisions ou des directions qui sont le résultat d'une histoire et qui sont aussi des choix, donc on peut considérer ça comme intellectuel, mais en même temps il y a beaucoup de corps qui est engagé,
quelque
chose de très organique,
et puis à travers l'écoute elle-même, c'est-à-dire que c'est dans cette démarche là de tendre l'oreille entre guillemets et non pas dans une démarche de réfléchir à un système ou une représentation, un truc comme ça, c'est en ça que c'est très direct, très immédiat, en fait, moi, je pense.
Et c'est une volonté aussi de rouvrir l'écoute, parce que je trouve qu'on est dans un environnement aujourd'hui de vie qui fait que, quelque part, on est aveugle et on est sourd. C'est-à-dire, on se ferme, on se ferme à ce qui nous entoure, que ce soit au niveau du regard, au niveau du son. Mais tu sais, moi, je trouve que cette préoccupation-là... moi, ce qui m'a intéressé ces dernières années, c'est d'élargir un peu mon champ de réflexion, que ce soit dans la littérature, le cinéma, d'autres formes de musique qui peuvent être aussi considérées comme plus finalement commerciales. C'est que je trouve que, par exemple, je me souviens j'étais très marqué par le film de Kubrick, Barry Lyndon, Je ne sais pas si tu te souviens, film, ce film qui est tourné entièrement à la bougie, etc. Mais quand j'ai revu ce film il n'y a pas longtemps, j'étais marqué parce qu'il y a, dans ce film des scènes de regard, de soutien, en fait, où les regards, les deux personnages se regardent et ça semble durer une éternité. Ouais. Et c'est presque quelque chose qu'on ne voit plus, en fait. Au cinéma, mais c'est aussi quelque chose qu'on a du mal à faire dans la vie, c'est-à-dire on a de plus en plus de mal à soutenir l'attention ou le regard de l'autre. Et je sais pas, ça m'a marqué parce que voilà, je trouve qu'on est dans une époque où finalement on est submergé par tout un tas de données et on se ferme de plus en plus, on est de moins en moins réceptif.
D'accord. Mais donc, c'est le travail effectivement de l'artiste de toute façon de tout temps que d'ouvrir à des nouvelles expériences, des nouvelles sensations, des nouvelles
perceptions
et des nouvelles normalement peut-être. Bon, ça donne très envie de.
Non, mais par exemple, alors une autre chose aussi, puisque tu parles de la position de l'artiste.
Ouais. Parlons-en.
Je travaille par exemple avec. Je vais faire une performance avec mon frère qui est lui performeur.
D'accord.
C'est quelqu'un qui vient du théâtre, mais du théâtre du corps en fait. Ouais. Donc c'est ni un danseur ni un comédien. Enfin, il est dans une espèce d'entre-deux qui est assez indéfinissable et qui est pas situable. Mais il travaille beaucoup sur le ralenti. Donc, en fait, les gens ont l'impression qu'il ne bouge pas, qu'il ne fait rien, qu'il ne se passe rien, etc. Et puis, on a une performance à faire à Auckland, à Berlin, au mois de mai. Ouais. Donc, on était en train de chercher, on était en train de travailler sur comment expliquer ce travail. Et je me suis souvenu, en fait, son travail m'a... Je lisais à ce moment-là, je relisais le bouquin de Bataille sur la littérature et le mal et le chapitre sur Kafka. Et puisque tu parles de l'artiste, je vais un peu mettre de la littérature là-dedans. Et puis on cherchait avec Philippe, avec mon frère, comment finalement cerner ce travail et tout. Puis moi, je le vois dans la vie quotidienne avec tu sais, les gosses, le quotidien, quoi, job center, le machin. Toute cette lutte, finalement, que tu dois avoir vis-à-vis... Du quotidien, quoi. Ouais. Et dans ce texte de Kafka, enfin de Bataille sur Kafka, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé, qui fait écho à pas mal de choses, finalement, presque, peut-être, en tout cas, à ma situation personnelle aussi, c'est qu'il parle de la notion d'activité efficace. Et toute la remise en question, enfin, toute l'analyse, en fait, de la position de Kafka, de Bataille, c'est de dire que, évidemment, suite à sa relation au paternel, etc., le fait qu'il est. Il devait écrire et donc il faisait une activité qui n'était pas un travail. Donc il était dans une activité inefficace. Et Kafka d'ailleurs se considérait comme un mauvais écrivain, etc. Il avait des aspirations d'œuvre, de créer une œuvre, mais en toute modestie finalement. Mais il était obligé finalement de travailler dans un bureau, donc il était en lutte avec cette chose-là et la création. Ouais. Et dans cette analyse, Kafka, en fait, il repositionne... les choses dans un rapport d'enfantillage. Et j'ai bien aimé cette chose-là, c'est-à-dire que le choix de Kafka, en fait, de ne pas être dans une activité efficace, dont la valeur est donnée par le travail, le resitue entièrement, à ce moment-là, dans un rapport puéril aux choses. Mm-hmm. En tout cas, c'est comme ça que la société considère l'artiste. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans cette problématique, si on voit ce qui se passe avec les... Enfin, je vais faire un grand écart avec la situation des intermittents. Mais on est encore aujourd'hui, on voit encore aujourd'hui les artistes comme des gens qui mangent sur le dos de la société, qui font des choses qui sont pas utiles, c'est pas un travail. Et on est exactement dans, enfin ça n'a pas changé quoi. C'est-à-dire depuis Kafka ou bien avant, et aujourd'hui on considère encore les artistes dans finalement une activité qui n'a pas d'efficacité, donc qui n'a pas de valeur, puisque ça n'est pas un travail et que, ça ne rapporte rien. Et donc, je trouve ça dramatique, parce qu'en fait, le discours politique aujourd'hui, c'est de dire, mais si, regardez, la culture, finalement, elle génère autant de value que l'industrie automobile. Bon, c'est mettre les choses dans un certain rapport qui est assez bizarre.
Il y a deux stratégies, en fait. Il y a la stratégie de requalifier, effectivement, l'activité artistique comme un travail à ce moment-là, effectivement, dont on peut mesurer la portée économique, etc. Ou l'autre stratégie, c'est de revaloriser ou de mettre en avant, justement, cette part puéril comme étant, enfin, là, en l'occurrence, qualifier comme tel, comme étant fondamental et une, oui, voilà, nécessité humaine, voilà, absolument, indispensable. Enfin,
donc la revendication pour moi de l'enfantillage me plaît beaucoup, quoi, où il appelle aussi la résistance du rien.
Ouais, ouais.
Mais en fait, c'est une résistance, c'est comme il dit, c'est s'offrir à la mort, c'est-à-dire en fait, c'est refuser de rentrer dans une lutte directe de confrontation.
Mmh.
Et voilà, et continuer à faire ce pourquoi tu penses tu es destiné, quoi.
Après, là où la pente est glissante quand même, c'est qu'on est aussi dans un monde hyper régressif où effectivement cette société de consommation, elle fonctionne sur le plaisir immédiat, voilà,
sur la, oui, sur la marchandisation des choses.
Du coup,
quoi,
qui renvoie à une régression, c'est-à-dire à une immaturité, ouais, et quelque part aussi un retour en enfance. Et c'est pas bien évidemment de cela qu'il
non,
s'agit.
Non, c'est pas cette vision.
Et donc, il s'agit aussi d'être tranchant, d'être percutant.
C'est-à-dire quand on parle dans cette notion d'enfantillage, ce qui est intéressant, c'est que ça te replace à un endroit où tu n'es pas préoccupé par la productivité, en fait. C'est-à-dire tu fais les choses parce que tu dois les faire, et il y a une totale jubilation, naïveté, créativité.
Mmh. Ouais.
Et aujourd'hui, c'est pas du tout infirmant, en fait. C'est pas justement de l'infantilisme. Il parle bien d'enfantillage.
Ce qui serait plutôt infantilisant, c'est qu'on ait besoin que la société nous
dise
ça,
c'est du travail. On est dans un rapport infantiliste.
On
est dans un rapport où le système, l'adulte, finalement, le système, en fait, qui est l'adulte, regarde l'artiste comme finalement quelque chose de puéril. Alors que finalement, l'artiste essaye de maintenir son regard d'enfant, son esprit d'enfant, c'est-à-dire cette période où tu continues à porter un regard de découverte, de jubilation, de créativité, tu vois, d'expérimentation. Et je crois qu'en fait, voilà, si on peut boucler avec le début de notre intervention, c'est que voilà, c'est ce qui m'intéresse en fait dans chaque chose que je peux produire, que je peux faire, que je peux écouter, c'est que ça procure en tout cas chez moi toujours cette forme d'intérêt, de surprise, de curiosité, de jubilation, quelle que soit finalement la forme d'art.
Écoute, ça donne très envie d'entendre ton,
à qui, ah oui,
ton
on...
travail.
Ah oui.
peut-être plus tard, ou peut-être tu préfères qu'on écoute.
Ouais, ben je sais pas. Qu'est-ce que. Bah tiens, si on peut mettre Under the Carpet, ça c'est un groupe. C'est un autre groupe que j'ai au Liban. Alors, c'est un groupe que j'ai avec Fadi Tabal et Pat Conca, en fait, qui sont aussi dans une compétence.
Des musiciens qu'on a entendus dans le premier morceau.
Alors ça, c'est tout à fait une autre direction. On avait décidé de... Et là, je ne suis pas au sac, je suis à l'ordinateur. Enfin, j'ai
un
système électronique.
Okay.
Je travaille sur la diffusion du son, où je travaille sur... J'utilise en fait ma discographie, c'est découpé dans plein de petits bouts, et je les rejoue. En fait, c'est une forme de... un peu de travail mémoriel, soit à travers ma discographie, soit à travers des prises de son que j'ai fait dans des lieux, mais qui se rapportent toujours à des activités avec des gens, avec des danseurs, dans des espaces dans lesquels j'ai répété, où j'ai eu à travailler, où il y avait des sons, voilà, qui m'interpellaient, donc je les prenais.
Ouais.
Et là, c'est
donc tu as ce réservoir de sons que tu as capté.
Oui, j'ai un réservoir de sons qui se remplit,
qui
se remplit avec mon histoire. C'est-à-dire quand il y a un nouveau disque, ça rentre dedans. Bon, j'ai des petits caprices d'organisation qui sont tout à fait arbitraires. Et aussi les prises de sons. En fait, je me suis mis à faire des prises de sons. Alors, j'ai aucune prétention, fascination pour la prise de son. Je suis pas un puriste, donc je peux utiliser un bon micro ou je peux utiliser mon PCM, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est que le son ait une identité ou une texture, et ensuite, en général, je la travaille. Donc,
c'est ça que j'aimerais peut-être que tu expliques davantage. À l'intérieur de ce groupe, là, Under the Carpet, qu'est-ce que tu fais de ces matières sonores?
Under the Carpet, ça a été un groupe où, donc avec Fadi et Pad, donc Pad est à la basse, c'est un trio, c'est improvisé, mais on essaye de travailler sur un format, on s'est dit, bon, c'est un peu bizarre,
basse,
guitare, et puis électro, quoi.
Okay.
Mais on essaye de travailler dans un esprit pop, c'est-à-dire en fait, comme si on faisait des chansons ou des petits morceaux, format court, etc., avec des sortes de formes qui pourraient s'apparenter une musique pop, quoi.
Ouais.
Mais en improvisant, ce qui est vraiment pas évident. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des retours au rythme, au mélodique, mais tout ça dans une, en même temps dans une déconstruction, une reconstruction. Donc moi j'amène des sons, des textures, des environnements réalistes, comme dans celui-là d'ailleurs, je crois. C'est une prise de son que j'ai fait à Berlin, d'un jardin, etc. Et puis ça se... Ah non, là c'est des boîtes à musique. Celui-là c'est une boîte à musique.
On l'écoute peut-être comme ça. Un peu
voilà, c'est une boîte à musique qui est déconstruite, puis eux, ils travaillent dessus. Enfin, voilà.
Tout le monde s'amuse joyeusement.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Libre. Et nous recevons aujourd'hui Stéphane Reeves. On vient d'écouter Akira Rabelais, In a Cadence of Vanishing. Comment on peut traduire d'ailleurs ce texte dans un mouvement de, d'effacement, de disparition.
Ouais, d'évanescence, je ne sais pas, non, vanishing, de vaporisation. D'évanouissement.
D'évanouissement, on en trouve. Et qui est donc été enchaîné avec Under the Carpet, dans lequel tu joues. On a une continuité là, remarquable dans une sorte d'état d'esprit, justement, ouais. Un peu... pas comment il faut dire, embrumé, enfin...
Voilé, voilé. Moi, je dirais, ouais. Il y a quelque chose de voilé.
D'accord, ouais.
Que j'adore, en fait. Je sais pas pourquoi. Une forme ça de... m'intéresse de plus en plus, en fait, je crois, cette idée de relation, voilà, entre l'opacité et ce qui est caché, et ou la perception de ce que tu peux voir à travers... une certaine opacité des choses.
Enfin, c'est-à-dire à la fois on perçoit qu'il y a quelque chose à voir, mais sans vraiment le voir très bien. Donc à la fois on le voit, à la fois on le voit pas, mais c'est un peu l'idée de.
Je sais pas si c'est mon. Enfin, c'est nous. Pour moi, c'est récent. Enfin, c'est récent. C'est ces 10 dernières années. Donc, je pense que c'est mon expérience de migration de. De déplacement constant qui fait que je me suis confronté à beaucoup plus à vraiment des paradoxes relationnels dans des mœurs différentes, des cultures différentes.
Relations entre les gens, tu veux dire ?
Relations entre les gens, avec des espaces aussi, des espaces géographiques, des espaces politiques, des situations sociales... Et je crois que ça m'a amené à modifier un peu ma relation aux choses, quoi, finalement, aussi mon rapport de vision, probablement, de temporalité, d'attente, d'attrait. Donc je sais pas, je crois que finalement, dans certains espaces, on est obligé d'accepter. On est confronté finalement à une certaine opacité des choses et on est obligé de trouver sa propre je dirais pas autonomie parce que c'est vraiment beaucoup plus profond que ça, mais je sais pas ça
de bah, il y a une, pour moi justement j'avais parlé de ça, il y a un rapport à la subjectivité, quoi, parce que ces choses peut-être voilées ou cette opacité elle est relativement subjective au sens où c'est des sons qui me renvoient à ce que je suis, à ce qui me constitue, et donc dans une forme effectivement de subjectivité. Et peut-être qu'effectivement dans cette navigation, je ne sais pas comment tu disais, mais entre deux cultures en gros, ou deux zones géographiques distinctes, il y a aussi un rapport justement à la subjectivité qui est différent.
Qui est déplacé, qui est remise en question. Oui, très profondément, parce que ça modifie aussi les rapports presque sensuels aux choses, aux êtres, aux odeurs, aux parfums, aux regards. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter, mais finalement on est obligé de trouver un accord. Et je crois que quand on accepte qu'il y a toute une part... c'est plus complexe que ça, parce qu'après, il y a aussi, je pense qu'il y a, c'est un retour vers soi, effectivement, vers sa propre subjectivité, mais aussi vers son propre inconnu, quoi, finalement. Ouais. Ça nous rapporte à quelque chose de très...
d'opacité,
notre propre opacité, voilà, intérieure, voilà. Donc, c'est exactement ça. Je crois que ce jeu entre ce qui est voilé autour et puis ce qui est, ce voile que, finalement, on est amené à soulever presque... manière très... il y a de l'effroi là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'on peut être amené à ça peut faire peur, finalement. Ouais. Mais en même temps, ça m'a... Enfin, je sais pas, j'ai eu des expériences de vie qui étaient extrêmement intenses et qui jouaient sur ces frontières et qui m'ont... qui m'ont amené aussi à reconsidérer mon rapport sensitif à la musique, au son, enfin à ma pratique, etc. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis revenu vers une forme... En tout cas, j'ai eu besoin, comme dans Under the Carpet, tu vois, j'ai eu besoin de retrouver aussi un autre rapport à la musique qui soit quelque part moins... je disais ascétique.
Ouais, ouais.
Bien que moi, je me suis toujours considéré comme un musicien très, finalement, très organique, ouais, très corporel, etc. Ouais. Enfin, où le corps est très engagé, ouais. Et pas du tout.
Et la scène, mais... ça peut être un engagement du corps particulier aussi,
voilà.
Très fort. Hein.
Oui, oui, voilà. Et peut-être trop, quoi, finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, j'avais besoin de quelque chose de plus. De moins maîtriser, de moins canaliser, plus agrandi aussi finalement dans le rapport sensuel finalement au son, je sais pas, enfin
super,
j'ai dit ça comme ça, j'ai pas vraiment réfléchi dessus, mais
non, mais ça fait plaisir à entendre.
Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, dans Under the Carpet, c'est vraiment une formation qui m'intéresse beaucoup parce que elle maintient les principes d'improvisation, mais on a ce désir, voilà. C'est aussi une question de désir. Voilà.
Ouais.
Je trouve ça très intéressant. On a ce désir de revenir vers quelque chose qui serait plus simple, mais retour finalement au chant. Voilà.
Ah oui.
Enfin, que ce soit musical ou que ce soit un chant intérieur, enfin, je sais pas, au rythme,
à la voix humaine,
ouais, ou à la mélodie, ouais, enfin, voilà, mais oui, aussi où ça porte, où le son finalement vient comme voilà, une dimension élargie de tout ce qu'on peut faire passer comme justement rapport sensible dans une forme finalement beaucoup plus repérable, quoi.
D'accord.
Mais on utilise le son comme cette possibilité finalement de gonfler tous les rapports sensibles qu'on pourrait avoir, qu'on peut découvrir effectivement dans la musique expérimentale, quoi. Parce que ça démultiplie,
c'est ça.
La musique expérimentale nous oblige finalement à démultiplier nos rapports sensibles aux choses. Puisque moi je trouve généralement en fait que la musique populaire, enfin commerciale, elle est plutôt dans une restriction, c'est-à-dire que ça joue sur certains codes, et ces codes affectifs, mémoriels, finalement, on ne nous propose pas d'autres... Alors je trouve que c'est intéressant de, finalement, d'emprunter ces codes,
quoi,
mais... voilà, d'emprunter ces codes, mais de démontrer que, voilà, on peut aussi élargir notre rapport sensible. Mais ça, si je parle de la musique commerciale, bon, bas de gamme, parce qu'il y a aussi évidemment des... Il y a quand même des œuvres qui ont produit cette chose-là dans la musique, dans le rock, ou dans le pop, ou dans le classique, le jazz, enfin dans toutes les musiques pour moi. Et voilà, et remettre cette préoccupation au cœur de l'impro, ça m'intéressait.
Et oui aussi.
Voilà.
Très bien, et bien écoutons...
Donc qu'est-ce qu'on... Ah oui, alors là on va écouter Omar Suleiman.
Omar Suleiman, voilà.
Qui est un musicien syrien.
Ouais.
Il est un...
ليجاني نسيت كل We'll be right back.
Les oreilles libres sur Radio Libertaire et toujours la joie de l'éclectisme dans la programmation sur la proposition de Stéphane Reeves qui est notre invité aujourd'hui. Alors à la fois esthétiquement on a enchaîné là deux choses très différentes dont on va parler, mais je me disais là, en écoutant le deuxième morceau qu'en fait on retrouvait aussi quelque chose d'assez hypnotique, une espèce de comme ça de peut-être pas ouais limite extatique, enfin en tout cas il y a le
transe.
Corps à nouveau la transe, il y a de nouveau ouais. ce que ce soit la 16 dont on peut parler ou quelque chose là qui est beaucoup plus dense mais ce phénomène un peu
ouais c'est ça quoi. Mais tu as dit le mot, enfin c'est la transe extatique, enfin je sais pas, quand j'écoute Souleymane, après que j'écoute...
Omar Souleymane, donc on a entendu tout au début.
Donc musicien qu'il jouait, syrien qui joue dans les mariages. Enfin, j'ai commencé à dire ça avant d'être coupé.
Oh donc ça... on ne censure personne sur Radio Libertaire, tu peux dire...
Syrien. Bon bref, c'est un musicien syrien. Donc, tu sais, en fait, voilà, c'est ça. C'est ce qui est très intéressant, c'est que bon, Omar Souleymane, c'était un mec qui tournait partout en Syrie, qui faisait des mariages avec... avec deux gars, enfin un synthé pourave, et puis un type qui joue un peu d'Aoud et puis peut-être du Derbeke, tu vois. Et puis il chante ses chansons, mais il y a quelque chose pour moi dans le rapport à la danse, à la transe, et qui passe aussi encore une fois par un certain rapport au son, quoi.
Oui,
enfin,
c'est vrai qu'il a
à l'instrument. Voilà, pour moi il y a toujours quelque chose qui se rapporte comme ça à une couleur, à une bref, et si on écoute DJS finalement qui est pur techno, enfin mais qui est pareil, qui est, enfin en tout cas moi quand je danse c'est un summum celui-là, c'est bien fort, voilà, il y a un rapport de puissance aussi, tu vois, qu'on peut trouver, j'aime ce rapport aussi de l'énergie, de la puissance dans la matière, dans le son, dans le rythme. Et quand c'est bien fait, quand c'est bien géré, quand c'est senti, quoi, en fait, tu je sais pas, tout est bon, quoi.
Ouais.
Et effectivement, entre Souleymane et DJS, je trouve qu'il y a cette communauté de la transe, de l'extase, qui moi m'intéresse énormément, quoi.
Et est-ce qu'on retrouve ça dans ton duo avec Fred Nogret, par exemple?
Non, enfin, oui, finalement, oui. Il pourrait y avoir cette forme de contemplation. Ça serait beaucoup plus contemplatif, contemplation extatique, quoi. C'est-à-dire, ça te ferait pas lever de ta chaise, mais. Mais je pense qu'il y a quelque chose, oui, de cet ordre de la durée et de la contemplation, ouais.
Écoute, peut-être on écoute ça, Fred Nogret.
Ouais, c'est une longue pièce, donc on va en écouter un peu les cinq premières minutes, un extrait. Ouais. Et puis on a un autre, d'ailleurs j'en profite pour dire que on a. Ça a été enregistré quand Fred venait au Liban, que j'habitais là-bas, il est venu 3-4 fois, puis je l'ai remis finalement au Larsen parce qu'il il s'était détourné un peu de ça pour travailler tout son instrumentarium.
Ah oui, d'ailleurs c'est des bols en cristal.
De bols en cristal, etc. Mais en fait, là il est revenu. C'est vraiment un travail de Larsen, de feedback avec des tables, des pédales. Et moi, pareil, j'utilise un peu le même dispositif que j'ai pour Under the Carpet, c'est-à-dire voilà, mes propres sons, des prises de son naturelles, etc. Et puis on s'est mis à travailler. Et on a donc un nouvel opus de ce groupe, The Imaginary Soundscapes, qui va sortir en juin sur le label Talem, c'est ça? Oui, je crois.
Eh ben, écoute, on écoute et puis on en reparle juste après.
Juste après. Une fois que ça sera lancé.
Ou sinon, on en parle avant.
C'est lancé.
d'ailleurs, là, vous m'entendez, donc reprendre la parole pour annoncer
quel pagaille.
Le duo. Ah non, mais c'est ça qui est bien avec Radio Libertaire, on rigole quoi.
Et, The Imaginary Soundscape, ouais, c'est un duo que j'ai avec Frédéric.
Attends, on va le redire, je suis pas sûr qu'on ait bien entendu. C'était donc le duo Stéphane Reeves, qui est notre invité aujourd'hui, et
Frédéric
Nogret, qui joue donc ici avec toi dans un projet qui s'appelle The Imaginary Soundscapes.
Voilà, donc c'est vraiment un projet auquel je tiens énormément. Enfin, la collaboration avec Frédéric, c'est quelque chose de très important. Parce que déjà, il a un rapport d'écoute qui est complètement singulier, propre à lui-même. Et surtout, une préoccupation de l'écriture ou de la réécriture. Parce qu'en fait, ça, c'est parti d'improvisation, mais tout est, d'une certaine manière, pas recomposé, mais disons restructuré. Et voilà, enfin, Chaud, c'est un type assez particulier. Et la musique qu'on produit est différente. C'est vraiment une musique que je ne ferais pas avec quelqu'un d'autre.
En tout cas,
qui a un territoire assez particulier, très défini.
On n'entend pas nécessairement que c'est un duo non plus. C'est-à-dire
oui,
qu'il y a
absolument.
Une telle osmose.
Il y a une osmose,
quelque chose qui fait que. Vous êtes
Et je pense que ça vient du fait que c'est quelqu'un qui a une habitude de... Bon, c'est un musicien qui fait de l'électronique à l'origine et puis ensuite qui aujourd'hui, avec les bols en cristal, finalement continue de poursuivre un peu dans la même direction, mais par un autre rapport à l'instrument, puisque bon, c'est des bols en cristal, donc, mais finalement, c'est la même musique, c'est des fréquences, voilà, le geste,
mais
le son, ça pourrait être de l'électronique, enfin, je sais pas si tu l'as déjà écouté. Et puis, il fait aussi maintenant la prise de son, donc il fait du field recording, et tu sens que partout dans ce qu'il fait, il a cette. Ce point fixe de l'écoute qui est une écoute très très précise, très à l'intérieur des choses, très profonde quoi. Et pour moi c'est une collaboration vraiment intéressante, enfin très riche. Donc j'aime beaucoup à chaque fois qu'on fait, à chaque fois que je réécoute, d'abord ce que j'aime c'est que j'ai l'impression que c'est pas moi qui joue, c'est pas nous qui jouons, j'écoute ça comme si c'était quelqu'un d'autre. Et c'est ce que, quand j'aime en fait mes propres disques perdurent, pour moi c'est quand je les réécoute, j'ai l'impression que
c'est pas toi qui joue quoi.
C'est un autre groupe. Ouais. Et j'aime ça, réécouter ce que je fais comme si j'avais oublié en fait que c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, je redécouvre la musique et ça me plaît. Ça me touche d'une manière très, justement, détachée, très naïve, comme j'écouterais un morceau, quoi, très simple, qui me parle. Et voilà. Et donc, on a un projet d'un autre disque qui va sortir en juin, je disais, sur le label Talem, qui est une autre pièce de 20 minutes, qui est aussi... issu de toute cette matière qu'on a enregistrée il y a 3 ans à Beyrouth. Il y a plein de sons, évidemment. Moi, mes prises de sons viennent du Liban, mais il n'y a rien qui se rattache. Enfin, tu vois, ce n'est pas un orientalisme. Il n'y a pas de préoccupation spécifique aux sons régionaux. C'est vraiment des matières très... C'est une ville très sonore, donc il y a beaucoup de matières...
Tu parles de Beyrouth ?
Oui, beaucoup de matières très particulières. C'est un bruit de fond constant. Donc c'est très inspirant pour
un preneur de son particulièrement aiguisé qui fait que tu vas repérer des choses avant où il est.
Oui, puis j'absorbe, tu vois, je suis pas en lutte contre le son environnemental. J'ai progressivement développé cette capacité à me laisser finalement transpercer quoi. Et c'est comme quand tu es dans le métro, tu vois, et puis que le métro est ultra sonore, des fois tu as quand même des fréquences, des sons, des choses qui arrivent qui sont absolument qui sont très violentes. Et je pense, et ça rejoint en fait cette idée de cette écoute fermée, c'est, je crois que si on reste à l'écoute ou peureux aux choses, finalement on n'est pas dérangé, on peut être surpris, mais on n'est pas comme ça réveillé, déplacé dans sa propre bulle, on reste dans cette porosité aux choses. Et bien sûr, bon, je parle pas du rapport de pollution sonore, enfin tout ça, mais il y a moyen quand même de rester en accord finalement garder cette souplesse, cette porosité par rapport au son.
Dans la
Donc moi, Beyrouth, c'est toujours un puits sans fond pour aller choper, capter des trucs. Je trouve que c'est très inspirant.
Et on est très heureux que tu viennes nous les faire entendre aussi dans les oreilles libres. On arrive aussi pas loin du terme de cette émission. Donc avant de se quitter, avant d'écouter un nouveau morceau, peut-être on va prendre le temps de faire quelques annonces de concerts, puisque on peut parler du concert de samedi, demain, samedi 1er mars, à Hackenbush. On avait reçu Benoît Spingaï il y a quelques mois, peut-être même un an, pour nous parler de ce lieu. Peut-être les auditeurs s'en souviennent, je redonne l'adresse, c'est 3 rue Raymond Fassin à Malakoff. Et puis j'annonce, je n'ai pas dit encore, que demain c'est le duo Pascal Batus et Daphné Vicente Sandoval qui se produit à 20h. L'adhésion à Hackenbush c'est 5€, la participation aux frais c'est 10€. Voilà, Pascal Batus, on l'avait reçu aussi il y a quelques mois. Et il joue des surfaces rotatives demain soir. Et Daphné Vicente Sandoval joue du basson. Donc voilà, une invitation, enfin une proposition de concert pour ce week-end. Dimanche 2 mars, peut-être qu'on peut aussi annoncer... Dimanche 2 mars,
c'est donc les dimanches de la guillotine, comme d'habitude, à la Montreuil, à 17h, le premier dimanche du mois. Ouais. Donc là, on aura un trio autour de Kumi Iwase, qui est une saxophoniste japonaise, et puis un autre trio autour de la japonaise Kumi Iwase sera accompagnée d'un peintre qui improvisera et d'un électro aussi. Nicolas Billon, voilà. Et sinon, après, un autre trio autour de Marie-Estève à la voix, avec Raphaël Ardité à la trompette et Jacques Pochat, serviteur au saxophone.
Et donc 17h et la participation au frais.
C'est 7€.
Et 7€. Ouais.
Je peux annoncer pour si vous voulez le morceau qu'on va écouter, parce que alors là, c'est vraiment du mainstream. Je propose qu'on écoute Tindersticks. Donc c'est un groupe anglais, je crois.
Mm-hmm.
Et c'est surtout un groupe qui a fait toutes les dernières bandes originales des films de Claire Denis.
Ah, voilà.
Et donc ça me rapporte au cinéma et surtout un film qui s'appelle Trouble Every Day. Je sais pas si vous connaissez.
Enfin, moi je connais pas.
Pour moi c'est un film. Enfin, j'adore Claire Denis. Bon, en l'occurrence.
Trouble Every Day, c'est un film de Claire Denis, donc.
C'est un film de Claire Denis et donc ils ont fait cette BO et c'est une longue variation.
Mm-hmm.
C'est le même thème mais qui varie sans arrêt tout le long du film. Et c'est un film qui parle, selon moi, de la notion de la dévoration. C'est un film sur la sexualité, sur le désir, etc., mais qui parle surtout du rapport dévorant, presque vampirique. Et je trouve, voilà, ça me rapporte toujours à cette question du voilé, du dévoilé, du sensuel, de toutes ces préoccupations, tout ce rapport au sensuel, finalement, et au sexuel, presque, uh-huh. qu'on peut retrouver, qui pour moi, finalement, est parti... Enfin, est contenu aussi dans nos approches, soi-même en musique expérimentale, etc. Enfin, je me souviens avoir travaillé avec des vocalistes et Dieu sait que la voix, quand elle est mise en jeu dans l'improvisation, ça pose beaucoup, ça crée beaucoup de gêne dans l'auditeur parce que voilà, ça se rapporte à des choses extrêmement intimes. Et je sais pas, je crois que globalement, enfin, j'ai toujours, il y a toujours un point de fuite en fait dans mes écoutes, dans mon travail qui gravite autour de tout cet univers.
Est-ce que le rapport aux images peut être aussi un point de fuite du coup?
Et le rapport aux images, évidemment, le cinéma de plus en plus. Je suis presque beaucoup plus intéressé par le cinéma aujourd'hui que par la musique.
Ouais. Écoute, tu reviendras alors.
mais ça veut pas dire que ça veut pas dire non, mais non, mais en tant que spectateur novice quoi, Mais voilà, ce film-là, pour moi, ça a été un film marquant parce que j'ai jamais vu quelqu'un traité par l'image et un rapport à l'image et un rapport au son, à la musique, toucher cette complexité qu'il peut y avoir dans le désir et ce désir dévorant, presque meurtrier. Voilà.
Et ben redonnons le
donc Tinderstick, pour... c'est un groupe très connu aujourd'hui, mais oui.
Est-ce qu'on peut redonner le titre du film là pour
c'est Trouble Every Day.
Trouble Every Day, nos auditeurs à le voir.
Je conseille à tout le monde de voir le maximum de films de Claire Denis. C'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Voilà. Et donc on termine l'émission en écoutant Tinderstick. D'être venu, merci beaucoup. La semaine prochaine, on reçoit Julien Loutelier et Benjamin Doustessier. Salut!
Every day.